Frères et sœurs bien-aimés, nous voici en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, nous préparant à célébrer les solennités de la Nativité du Seigneur, faire mémoire de son incarnation. Dieu a quitté la hauteur du ciel pour venir visiter cette terre. Il prit notre condition humaine pour que nous, les hommes, puissions le rejoindre là-haut, dans la paix et la joie du ciel. Si le temps de l'Avent est un temps de pénitence, où nous nous efforçons de cheminer comme le peuple de l'Ancienne Alliance dans le désert de ce monde, pour voir resplendir la vive lumière du Seigneur qui vient à nous, en ce temps de pénitence, nous sommes, en ce troisième dimanche, dans un temps de joie. Le violet de la pénitence fait place aux roses pour nous dire qu'en dessous de la pénitence, ce qui doit nous motiver, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Une joie intérieure, celle de savoir que nous appartenons au Christ. Et que si nous appartenons au Christ, cette appartenance est passée par le bois de la croix. Dieu nous aime tant, frères et sœurs, nous ne le mesurons pas assez, que par amour pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour nous ouvrir un chemin là où la mort semblait tout arrêter, voilà que le Seigneur se saisit de la croix pour réparer nos erreurs, nos fautes, nos péchés, nos indifférences, nos lâchetés, et pour pouvoir ensuite, eh bien, nous faire entrer dans la vie éternelle, passant alors par sa justice, mais tout autant par sa miséricorde. Alors nous nous réjouissons de nous savoir ainsi aimés par le bon Dieu, de nous savoir tout autant attendus par lui dans le royaume des cieux. Dans l'évangile de ce dimanche, nous rencontrons Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui n'est plus dans le désert pour annoncer la venue du Messie, pour susciter dans les cœurs l'examen de conscience permettant de faire toute la lumière sur sa vie et de décider de reprendre cette route avec le bon Dieu. Jean-Baptiste n'est plus dans le désert en train de baptiser, c'est-à-dire de poser le signe d'une conversion. Voilà qu'on entre dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste lave symboliquement la personne avec cette eau pour laver ses péchés, on sort de l'autre rive et on commence en compagnie de Dieu, purifié de ses péchés, cette nouvelle route qui mène à lui. Jean le Baptiste a été arrêté et bientôt pour le prix d'une danse, voluptueuse s'il en est, voilà que Hérodiade, l'épouse du roi Hérode, qui était en fait sa belle-sœur, il avait fait tuer son frère pour épouser Hérodiade. C'est la raison pour laquelle, lorsque Hérode, dans le cœur résonnait lorsqu'il entendait parler Jean le Baptiste, parce que la voix de sa conscience n'était pas éteinte, il avait peur pour sa couronne, il avait donc fait tuer son frère, il épouse là sa belle-sœur, et celle-ci a eu de dents contre Jean le Baptiste. Car on ne put pas faire admettre à Jean le Baptiste que cette union était légitime. Alors Jean-Baptiste était en prison. Et bientôt, parce que la fille d'Hérodiade va faire une de ses danses voluptueuses, que Hérode lui demandera « Que veux-tu que je t'offre en remerciement de cette danse? Ce serait la moitié de ton royaume, je te le donnerai. » Elle demanda à sa mère, et celle-ci, revancharde, demanda que tout de suite lui soit apportée sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Pour l'heure, Jean-Baptiste est en prison. Et ses disciples, ceux dont faisait partie saint André, avec qui nous avons commencé notre temps de l'Avent, disciples de Jean-Baptiste, celui qui avait amené à Jean-Baptiste son frère, qui deviendra l'apôtre Pierre, les disciples de Jean le Baptiste viennent le visiter en prison. Jean a reconnu sur les bords du Jourdain que celui qui venait, son parent, c'était lui, le Messie de Dieu. Que si lui avait baptisé avec de l'eau, lui baptiserait avec le feu et l'Esprit-Saint. C'est le baptême chrétien qui déjà s'annonce, cette identification au Christ. Et on vient rapporter à Jean-Baptiste ce que fait son parent, son cousin. On nous dit, eh bien voilà, les aveugles retrouvent la vue, Jean le Baptiste. les boiteux se mettent à marcher, même les lépreux sont purifiés et les sourds finissent par entendre. Les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Voilà tout ce qui se passe dans ce premier temps du ministère de notre Seigneur Jésus le Christ. Dans l'Évangile, nous rencontrons l'aveugle, nous rencontrons le paralysé, le boiteux. Eh bien voilà que le Seigneur, par la force de sa prédication et parce qu'il est Dieu qui vient à notre rencontre, opère un certain nombre de signes que nous appelons légitimement des miracles. Mais le problème du miracle, c'est qu'il ne faut pas en rester au miracle. Il faut se poser la question, comment celui-ci a-t-il pu opérer un tel miracle ? D'autant que notre Seigneur Jésus le Christ se distingue des prophètes de l'Ancien Testament. Il n'est pas comme le prophète Élie à faire des prières de supplication avant d'opérer le miracle. Il ne demande même pas à Dieu d'exaucer sa prière et de guérir tel malade. Non, c'est Dieu lui-même qui est là. Il touche l'aveugle, il retrouve la vue. Il ordonne qu'il en retrouve l'audition, il entend. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. D'où la question, d'où lui vient une telle autorité? Mais qui est-il donc pour que Dieu lui obéisse ainsi? Eh bien, c'est Dieu, frères et sœurs, caché dans son humanité, qui vient à la rencontre de l'aveugle, du boiteux, qui vient à notre rencontre. Jean-Baptiste se réjouit donc dans sa prison de savoir le Messie de Dieu arriver pour sauver son peuple. Il sait sa mission terminée, il est la voix qui crie dans le désert, mais maintenant il y a le Verbe de Dieu. La voix du Baptiste va cesser, mais le Verbe de Dieu, lui qui a les paroles de la vie éternelle, eh bien lui va se mettre à parler au grand jour et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si nous rencontrons dans l'Évangile Jean le Baptiste dans sa prison, en ce jour d'action de grâce, après la béatification de l'abbé Pascal Vergès, nous le retrouvons lui aussi, comme Jean le Baptiste, comme le Seigneur Jésus, dans sa prison. Tout d'abord, nous nous souvenons en cette vallée des Gaves que c'est un fils de notre terre, né à Aucun le jour de Pâques 1910, d'où son prénom Pascal. Toute sa vie, frères et sœurs, puisqu'il va recevoir le baptême peu après sa naissance, toute sa vie, eh bien, va être ce mystère de Pâques où nous passons de la mort à la vie. Il s'appelle Pascal, il porte le nom de la victoire du Seigneur ressuscité, et pourtant, avant de vivre de cette victoire du Christ ressuscité, il va d'abord le suivre dans le mystère de sa passion. Il est élevé dans une famille chrétienne. Son père, je vous le disais, était brigadier ici à Lus-Saint-Sauveur en 1910, au jour même de sa naissance. Il était en notre cité. Il va, ce jeune Pascal, eh bien recevoir une éducation chrétienne aux côtés de sa famille qui est très pieuse, aux côtés également de son curé. Il aimait aller à l'église, il aimait particulièrement aller prier la Sainte Vierge. Voilà là l'âme bigourdane, qui sait que dans cette voie spirituelle qu'à travers les âges le Seigneur a tracée pour nous, nous passons par la bienheureuse Vierge Marie. Nous allons avec confiance auprès de la Sainte Vierge, car nous savons, peuple de Bigorre et de ses quatre vallées, quel est le chemin le plus court et le plus sûr pour aller à son Fils. Nous sommes pendant la Première Guerre mondiale, c'est en ce temps-là qu'il grandit. On se souvient, comme ce fut le cas partout, de ces prières instantes, de ces femmes, de ces mères qui viennent à l'église chaque jour avec les enfants pour assister à la messe quotidienne, pour prier ardemment pour la victoire de la France, bien sûr, mais surtout pour le retour sain et sauf de toute cette jeunesse partie répondre à l'appel des drapeaux. Et dans l'âme de l'abbé Vergès, il y a également un désir avec celui que la guerre cesse. C'est que son curé a annoncé que lorsque la guerre aurait cessé, on irait enfin visiter la grotte de Massabielle, la grotte de Lourdes. Même lorsque l'abbé Vergès, dans les heures les plus sombres de son emprisonnement, de ses tortures, eh bien, devait rechercher quelque peu d'espérance. C'est le témoignage de l'un ou l'autre qui était à ses côtés. On lui disait « Regardez l'abbé, quelle heure est-il ? C'est l'heure de la grand-messe à Lourdes. » Et là, son âme, malgré les tourments qu'il subissait, eh bien, retrouvait déjà l'espérance et le bonheur de l'autre monde promis par la belle dame. Il put accomplir avec son père, sa mère, sa paroisse d'Aucun, son curé, ce premier pèlerinage à la grotte de Massabielle en 1918. C'est en venant ici s'établir à Lucin-Sauveur avec sa famille qu'il va recevoir le sacrement de la confirmation. Si déjà son baptême est étroitement lié à la fête de Pâques, voilà que cette confirmation qui le fait, comme chacun d'entre nous, soldat du Christ, qui nous donne la grâce de ne pas avoir à rougir du nom de Dieu en toute notre vie, d'être son envoyé et de se souvenir que par le sacrement de la confirmation, il nous est demandé de porter le témoignage du Christ jusqu'au martyr. Nous ne sommes peut-être pas tous appelés au martyr, mais le jeune Pascal qui, en cette église, a reçu le sacrement de la confirmation, eh bien, a reçu là encore une autre preuve de cette configuration au Christ. Il va le suivre étroitement jusqu'à passer comme lui à travers le mystère de la croix. C'est au jour de sa confirmation en notre église Saint-André qu'il reçut l'appel à suivre le bon Dieu en devenant prêtre. Alors il s'y prépara, c'était un bon élève, faut-il dire, à l'école également de ses prêtres, et on l'envoya alors au petit séminaire de Saint-Pé. Son père, qui était pourtant catholique et bien pratiquant, eh bien, était tout de même assez embêté. Il dit à son ami, le curé d'Aucun, c'est pas un métier. Et le curé lui répondit, non, c'est une vocation. Et si votre fils y est appelé, vous ne pourrez rien faire. Alors l'abbé Pascal rentre au petit séminaire de Saint-Pé. Il suit ses différentes études. Nous avons encore tous les tableaux d'honneur où il fut distingué parmi les bons élèves de Saint-Pé. Répondant avec piété à cet appel du Seigneur, voilà donc que le jeune abbé Vergès va être ordonné prêtre. Il sera ordonné au sanctuaire de Lourdes, en la basilique du Rosaire. Il devient prêtre, et l'une des rares phrases que nous avons de l'abbé Vergès nous est rapportée sur le parvis de la basilique du Rosaire. « Prêtre, je le suis, je le serai jusqu'à ma mort. » Eh bien voilà que l'abbé Vergès devient, par nomination de l'évêque, professeur au petit séminaire de Saint-Pé, professeur de français, professeur de latin, pendant 3 années. Pendant déjà ses études au grand séminaire de Tarbes, il avait rejoint pour son service militaire Brive-la-Gaillarde et son régiment d'infanterie. Et lorsque l'appel des drapeaux se fait à nouveau entendre, eh bien voilà que l'abbé Vergès va rejoindre en la 3e année de son ministère sacerdotal son régiment à Brive-la-Gaillarde. Ils seront faits prisonniers et pendant un temps, voilà que l'abbé Vergès est prisonnier de guerre. Si je précise cela, c'est parce que les prisonniers de guerre étaient protégés par la Convention de Genève. La liberté de culte, la liberté religieuse était garantie pour les prisonniers. De telle sorte que l'abbé Vergès, dans sa prison, peut célébrer la Sainte Messe, peut prier son bréviaire, peut également, c'était ça toute l'œuvre de sa vie, rendre les services de son ministère sacerdotal, c'est-à-dire écouter les prisonniers avec lui en confession, leur dispenser les différents sacrements, leur faire vivre la messe. Et il y a encore une France immensément chrétienne dans ces prisons-là avec lui. Il fait donc des petites retraites, il prêche des récollections, il s'efforce, comme l'a fait Jean le Baptiste dans le désert, de réveiller les cœurs pour qu'ils répondent toujours plus généreusement à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et n'oublie pas bien sûr de prier ardemment pour sa patrie occupée, pour qu'elle retrouve la paix et sa souveraineté. Nous perdons aujourd'hui, et l'un et l'autre, soit dit en passant. Eh bien, notre brave abbé Vergès reçoit l'appel du cardinal de Paris, le cardinal Suard, et de celui de l'abbé Rodin, qui les invite à quitter leur statut de prisonnier garanti par la Convention de Genève, puisque l'Allemagne nazie a réquisitionné une partie de la jeunesse française pour aller travailler en Allemagne. Ce sont les œuvres de travaux forcés. Il ne faut pas oublier qu'en ce temps-là, mieux valait être un prisonnier de guerre qu'un membre du travail obligatoire. Parce que autant prisonnier de guerre, il y a une certaine protection, je vous l'ai dit, mais encore, on est prisonnier pour la patrie. Aller répondre au travail obligatoire en Allemagne, c'était donc travailler pour l'ennemi. L'abbé Vergès a donc tout un discernement à opérer. Il finit, malgré bien des craintes, par accepter de partir dans ses travaux obligatoires et d'en devenir, soi-disant, aumônier d'un camp de 2000 à 3000 personnes. C'est dit, je suis aumônier d'une centaine de prisonniers là, si dans le sens de ma vie, de mon ministère, est d'aller répondre au plus près, eh bien, à cet appel du Seigneur, je le fais. Il est parti. Il est parti, mais il n'y avait pas de convention de Genève. L'exercice du culte lui a été profondément interdit, comme tout apostolat. L'abbé Vergès s'efforça de demeurer prêtre. Autant au début, on lui autorisait à célébrer la Sainte Messe le dimanche dans un couvent de religieux. Et puis, quelques jeunes et de plus en plus de personnes voulaient venir assister à la messe. Et puis, voilà qu'on va prendre en grippe l'abbé Vergès, qu'on va le martyriser, le flageller, cela pendant 3 mois. Nous avons retrouvé des lettres de sa maman qui écrit d'ici à Lucin-Sauveur avant de monter à Eas, une lettre des plus poignantes, nous parlant justement de cette douleur de mère, de savoir que son fils a été ainsi flagellé pendant 3 mois. Alors l'abbé Vergès, que fait-il? Eh bien, il s'efforce d'être identifié au Christ. Dans cette œuvre clandestine pour vivre la foi, eh bien, il s'est efforcé d'annoncer Jésus-Christ, comme Jean le Baptiste dans sa prison. Eh bien, il a pu baptiser au moins 2 personnes dans ses camps, entendre un grand nombre en confession, s'efforcer de désobéir aux ordres et d'aller au jour de la Toussaint bénir chacun des tombes de tous ceux qui ont été fusillés, pour une raison ou pour une autre. De célébrer aussi clandestinement la messe de Noël, où chacun avait répété et la messe des anges et les grands cantiques traditionnels, s'efforçant de susciter l'espérance là où la désespérance régnait, s'efforcer de témoigner de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain dans une Allemagne nazie qui défigurait tout sur son passage. Le jeune abbé Vergès, je vous ai déjà raconté les derniers instants de son existence, il a été atteint du typhus, parce qu'il travaillait en tant que chimiste. Vous voyez un peu, on leur fait préparer, travailler tous ces genres de choses chimiques, des bombes qui vont être destinées pour la France. Et bien voilà que cet abbé Vergès a donc été atteint de ce typhus. Et dans les derniers instants de sa vie, il est, après donc ces 3 mois de séances de flagellation, sur son petit lit, dans sa paillasse, dans une infirmerie, et à côté de lui se trouve Steiner, un jeune Allemand qui s'était opposé lors d'une manifestation au régime nazi, qui a été emporté dans un camp et dont on a broyé la jambe en refermant la porte du train. Cette blessure ouverte, lancinante, répond en écho à la quinte de toux incessante de l'abbé Vergès et au cri de douleur de ce jeune Steiner. L'abbé Vergès, dans un ultime acte de charité, sentant déjà avec cette quinte de toux que son dernier souffle approchait, a retrouvé un peu de ses forces, demandant l'aide de Dieu, réussit à se lever et à tâtons à trouver un peu d'eau, quelques bandages dans ce qui tenait lieu d'infirmerie pour aller bander la jambe de ce jeune Allemand et s'efforcer de calmer un tant soit peu ses douleurs. C'est sur le retour de cet ultime acte de charité qu'il a rendu son dernier souffle, tombant comme à genoux et rendant alors son âme à Dieu. C'est la gloire de notre presbytérium de Bigorre. Nous n'avons pas connu de canonisation de prêtres depuis celle de Saint Justin, notre premier fondateur, évêque de Tarbes, ou encore de Saint Micelin. Nous rendons grâce à l'abbé Vergès. C'est parce qu'il est un fils de notre terre, c'est un grand frère pour nous maintenant, qui doit habiter notre prière quotidienne pour lui demander, puisqu'il a plu au bon Dieu, de le voir si fidèle dans son sacerdoce, et d'entendre nos prières. De prier pour nous, pour tous nos fidèles défunts, parce que la joie intérieure de se savoir aimé de Dieu n'a jamais quitté l'âme de l'abbé Vergès. C'est la joie que nous célébrons aujourd'hui, la joie de tous ces martyrs que même dans les pires tourments, on ne peut leur enlever. Habités de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, voilà qu'ils s'offrent à la suite du Christ qui avait déclaré « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ». Et bien voilà que l'abbé Vergès prie pour nous et nous demandons à Notre-Dame des As de veiller sur nous et à l'école de l'abbé Vergès de savoir résister intérieurement en nos âmes alors que nous demandons au Christ de revenir dans la gloire, ainsi soit-il.